Bienvenue aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous n'étaient pas là la dernière fois et auraient besoin du programme et des documents qui ont été distribués la dernière fois?
Moi j'étais là, mais je les ai égarés.
Vous les avez égarés.
C'est pas bien.
Alors je vous en redonne.
Merci beaucoup.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour, oui, on s'est dit. Donc vous n'étiez pas là la dernière fois. Alors voilà. Tenez. Alors, ce n'est pas essentiel si ce n'est ce tableau-là auquel je me réfère régulièrement. Mais voilà. Ça permet en même temps de voir la progression.
Moi, je ne sais pas.
Alors.
Et ben voilà.
J'essaierai de pas oublier la prochaine fois.
Voilà.
Alors, je ne vous donne pas les textes parce que les textes, vous les trouvez dans toutes les bonnes Bibles.
Merci beaucoup.
Bien, je suggère quand même que nous commencions pour ne pas pénaliser ceux qui sont arrivés en avance à l'heure. Et je commence de toute façon toujours par un petit rappel de ce que nous avons fait la première fois. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous n'avions pas commencé à lire le livre de l'Apocalypse, puisque nous avons lu le livre de Daniel, le chapitre 7. Et c'était une façon de signaler que, comme je l'avais dit plus longuement, l'Apocalypse n'est pas un ovni isolé, l'Apocalypse de Jean. Il fait partie d'une tradition, d'une longue tradition littéraire et de pensée qui s'étale sur au moins un millénaire, et on pourra peut-être aller jusqu'à aujourd'hui, parce que la pensée apocalyptique, c'est un mode de pensée qui continue à avoir de la pertinence, pour le meilleur et quelquefois pour le pire, malheureusement. Nous avions lu Daniel 7, mais vous avez vu que sur le programme, je vous encourageais à lire en complément un passage du livre d'Ésaïe ou la deuxième partie du livre de Zacharie. On aurait pu multiplier les exemples, aller chercher d'autres passages en Ésaïe, d'autres passages en Ézéchiel. Une des séances que je fais d'habitude, là on n'a que 8 séances, souvent j'étale cette lecture de l'Apocalypse sur 10 séances, mais là c'était un petit peu compliqué au niveau du programme. Normalement à la deuxième séance, nous n'abordons toujours pas l'Apocalypse. Nous allons le faire aujourd'hui, comme indiqué, mais normalement je fais une séance sur Marc 13. Je vous encourage à aller lire, pas maintenant, le chapitre 13 de l'évangile de Marc, qui a d'ailleurs des parallèles en Matthieu et en Luc, et vous verrez que vous êtes sur un passage typiquement apocalyptique. Vous savez, c'est quand, après tout le chapitre 12, où Jésus a rencontré les uns après les autres ses opposants, et leur a tous réglé leur compte, j'entends rhétoriquement, donc ils sortent, et puis par le mont des Oliviers, ce qui n'est pas indifférent, puisque c'est sur le mont des Oliviers que doit se manifester le Messie et le jugement. Et les disciples, ou Pierre plutôt, fait remarquer à Jésus, « Regarde, maître, ces belles pierres !» Et Jésus dit, « Le temps vient où il ne restera plus pierre sur pierre. » Alors il dit, mais quand est-ce que ça va se passer? Tu ne pourrais pas nous donner des indications? Et alors Jésus part dans tout un chapitre apocalyptique qui fait évidemment allusion à la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. L'évangile de Marc ayant été écrit après, il peut en parler. J'aurais pu aussi vous inviter à aller lire la première et la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, dans lesquelles il y a des passages typiquement apocalyptiques, et puis aussi la lettre de Jude, qui est une lettre sur laquelle je suis prêt à parier que vous n'avez pas entendu beaucoup de prédications, ce qui n'est pas étonnant parce qu'on se demande ce que ça fait là un petit peu, d'une certaine façon, même si ça a beaucoup d'intérêt pour la connaissance de la pensée apocalyptique du judaïsme tardif. Tout ça pour dire qu'on aurait pu avoir toute une séance sur des passages apocalyptiques du Nouveau Testament qui ne sont pas dans l'Apocalypse de Jean. Ça nous aurait été quand même utile, on n'a pas le temps de le faire, mais je le dis rapidement, surtout par rapport à ce schéma sur lequel je reviendrai souvent, sur cette idée que l'apocalyptique lit et analyse le temps présent du point de vue des temps de la fin. Ce qui est une façon de voir l'apocalypse différente de celle que l'on a d'habitude, à savoir, on pense l'apocalypse souvent comme l'agenda de Dieu pour la fin des temps. Donc nous sommes aujourd'hui et nous prenons notre longue vue pour voir ce qui se passe aux confins des temps dans l'avenir. Ça, c'est l'approche classique de l'apocalypse. Et je vous invite, vous le verrez, pendant tout ce cycle, à avoir une approche différente qui me semble plus respectueuse de ce qu'est l'Apocalypse, à savoir que ce sont les combats présents, les résistances des chrétiens à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, vis-à-vis de l'Empire romain, qui sont vus du point de vue de la fin des temps. C'est-à-dire que le regard est inverse. Si nous avions lu Marc 13, mais vous le ferez, si nous avions lu 1 Thessaloniciens en particulier, vous verrez que Jésus dans l'évangile de Marc, ou bien l'apôtre Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, accepte d'accueillir une inquiétude apocalyptique de la part de ses auditeurs. Maître, quand est-ce que tout cela va arriver ? Et puis il les emmène dans un discours typiquement apocalyptique avec les étoiles qui tombent du ciel, les tremblements de terre, etc. Et puis à la fin, vous vous souvenez ce que dit Jésus à la fin de l'évangile, du chapitre 13 de l'évangile de Marc. Il conclut ce long discours apocalyptique en disant, ce qu'il devait attendre les apôtres, quant à ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait, pas même le Fils. Donc autrement dit, vous ne saurez pas. En attendant, veillez et priez. À savoir que il fait tout ce grand détour pour les ramener au présent. Et c'est bien le mouvement de l'Apocalypse, c'est qu'elle vous embarque dans une réflexion au-delà de l'histoire pour vous ramener dans le présent de l'histoire. Hein, toujours cette idée, le présent lu du point de vue de l'avenir. Alors, nous allons, comme nous n'avons pas cette séance sur le Nouveau Testament, mais je l'ai résumé très, très rapidement, nous allons entrer pour cette deuxième séance vraiment dans le livre de l'Apocalypse. Et alors, vous voyez que sur la feuille qui a déjà été distribuée, je vous donnerai d'autres documents après, il y a d'un côté tout le premier chapitre de l'Apocalypse, que nous lirons en entier un petit peu plus tard dans notre séance. Et puis, de l'autre côté, une sorte de montage où il y a les 8 premiers versets du chapitre 1 et puis la fin du chapitre 22 qui est le dernier chapitre. Ça tient au fait que si vous consultez tous les commentaires de l'Apocalypse qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui et qui ont été faits dans le passé, vous allez trouver des quantités de plans de l'Apocalypse dont aucun ne concorde. La seule chose qui concorde, c'est qu'il y a une introduction, un prologue et un épilogue. Et entre ces deux, en sandwich entre les deux, vous avez tous les plans imaginables possibles. Et ça tient en particulier au fait que l'Apocalypse n'est pas un livre qui déploie un propos de façon argumentée et linéaire, mais c'est une sorte de bande dessinée avec des flashbacks, des retours en arrière ou des ellipses temporelles qui annoncent le futur et puis qui ensuite rappellent le passé, font un détour par le présent en permanence. La seule chose qui est sûre pour le plan de l'Apocalypse, c'est qu'il y a un épilogue et un prologue. Et c'est ce que nous allons lire. Et comme vous le savez, on peut lire l'Apocalypse aussi comme une correspondance, même si on verra qu'on peut aussi le lire comme une liturgie. C'est souvent au début des lettres et puis à la fin qu'on a la visée. le reste étant du développement. Donc c'est pour ça qu'on va faire cette chose bizarre, que de lire les 8 premiers versets et puis les 15 derniers. Hein? Et d'une certaine façon, littérairement, il se détache du reste des autres chapitres. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ? Donc on lit du côté où il y a le petit chrisme dont je reparlerai tout à l'heure. Qui veut bien lire le chapitre 1, versets 1 à 8 ?
Je veux bien.
Merci.
Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu est le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Merci beaucoup. Ensuite, si on poursuivait, on aura la vision, mais nous la lirons tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un voudrait bien lire l'épilogue, à savoir le chapitre 22, versets 6 à 21 ? Oui, merci, Nicole.
Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombée aux pieds de l'ange qui me les montrait pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. Puis il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale se salisse encore. Que le juste fasse encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le roi Jeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et la mariée disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. »
Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous frappe à la lecture de ce prologue et de cet épilogue ?
Ils reprennent les mêmes thèmes.
Ils reprennent les mêmes thèmes. Vous voyez, ils se répondent. On pourrait essayer de noter ensemble quels sont les échos entre les deux.
Le temps est proche, je viens bientôt, viens.
Voilà, le temps est proche, je viens bientôt, viens. Alors là, pour accélérer un petit peu l'analyse, vous voyez que je vous ai mis des mots en gras.
L'alpha et l'oméga.
Évidemment, c'est pas en gras dans le grec. L'alpha et l'oméga, ouais.
Ouais. Donc moi, je comprends pas pourquoi les prostituées sont dehors.
Alors, si vous voulez, on va attendre, on traitera les prostituées après, mais là, on est dans le temps. Mais merci beaucoup pour la question. Oui, monsieur.
Alors, deux fois, je vois que le mot esclave est employé.
Oui, alors vous verrez que quand je retournerai la page, j'ai mis serviteur. On a sans arrêt cette explication-là. Le mot doulos en grec veut dire à la fois serviteur et esclave. Le problème, c'est que dans le sens d'aujourd'hui de ces deux mots, ou bien esclave est trop fort, ou bien serviteur est trop faible. Et donc, il faudrait trouver un mot. On n'en a pas en français. Si vous me faites une proposition, je verrai, mais on n'en trouve pas. Parce que il y a cette fonction de service, mais si on dit serviteur, le serviteur, il peut changer de maître, alors que l'esclave appartient à son maître. Mais évidemment que quand nous on dit esclave, ça convoque tout un imaginaire, l'imaginaire des Hébreux en Égypte tel qu'il a été construit au cours de l'histoire, l'imaginaire de la traite du commerce triangulaire et de l'esclavage, et ce qui correspond pas non plus à la réalité. Donc, esclave, c'est trop fort. Voilà. Donc, ce n'est pas un écrasement, c'est un serviteur qui appartient à son maître.
Dépendant
de son maître. C'est-à-dire que de l'esclave, il y a la question du statut, sachant bien qu'il y avait dans l'Antiquité des esclaves qui pouvaient être des hauts fonctionnaires. Hein? Donc, esclave, ça ne veut pas dire, là, dans ce cas-là...
Un disciple.
Ah non, disciple, ça c'est autre chose. Non,
c'est trop fort.
Si esclave vous gêne, transformé par serviteur, ça ira bien, mais rappelez-vous que il y a quand même une notion d'appartenance. Quelqu'un voulait intervenir de ce côté ? Non ?
Moi, je voulais poser une question. C'est qu'à la fin du chapitre 22, il dit « Moi, je l'atteste à quiconque tient les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. » Mais alors, comment on peut comprendre ça ? C'est par exemple, si on croit au livre de Mormon, et on lit le livre de Mormon qui est après l'Apocalypse.
Alors ça, on verra aussi. Il y a une question, vous voyez que ce livre, dans son épilogue, construit une clôture. Il construit une clôture en même temps qu'il pose une attente. Hein ? Ça c'est important. Ça fait partie de ce jeu avec le temps. Il y a une attente, vous l'avez noté, hein, il y a quelqu'un qui vient, on attend, vient Seigneur Jésus, donc on est tendu vers un futur, et en même temps, ça pose une clôture. On verra ce qu'on fait de ce type de clôture. Oui ?
Je suis frappée en 11, là, le 22, que celui qui soit juste, que celui qui est injuste soit encore injuste,
ouais.
C'est une espèce d'injonction paradoxale, il y en a trois.
Oui, absolument.
Que celui qui entend dise bien, que celui qui a soif vienne. Ouais. C'est-à-dire que celui qui est injuste, qui reste statique, ouais. On lui ordonne de rester statique.
C'est juste.
Et que les autres, au contraire, on les met en mouvement.
Ouais.
Et je comprends pas tout à fait, ça me choque, que ça m'étonne.
Alors c'est très important ce que vous notez, c'est que effectivement, c'est un livre qui appelle à la mise en mouvement. Et qui amène, à un moment, on verra ça dans le chapitre 18, « Viens, toi, mon peuple, sors d'elle, sors de la grande prostituée qui est Rome, Babylone. Hein. » c'est-à-dire que ceux qui sont appelés sont effectivement appelés à bouger, contrairement à ceux qui s'enracinent et qui arrivent à moyenner avec le pouvoir dans lequel ils sont. Alors, ce qui peut vous choquer, c'est aussi le fait qu'il y ait cette injonction à devenir injuste. On retrouve ça ailleurs. Hein. Vous vous souvenez quand Pharaon a le cœur endurci.
Voilà, hein. Ça, j'ai jamais compris.
Ouais. C'est-à-dire que on est... alors, non, nous, on a...
C'est tout à fait parallèle à ça.
Oui. C'est-à-dire que... peut-être pour l'expliquer, vous avez senti que... quel est le genre de temps dans lequel on est, là? Comment vous qualifieriez le temps, l'époque, dans laquelle se pose cet épilogue et ce prologue? Oui, oui, d'accord, ça c'est l'histoire.
C'est l'avant-dernière heure.
C'est l'avant-dernière heure, oui. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un long fleuve tranquille, hein. Où les époques se suivent tranquillement. On est dans un sentiment d'urgence, c'est l'avant-dernière heure ou la dernière heure. Et on a l'impression qu'on vient nous presser en disant « Il n'est plus le temps de faire des nuances entre le blanc et le noir. Hein. C'est maintenant qu'il faut choisir. » Et puis faites attention parce que on est presque au moment où celui qui a choisi d'un côté va s'endurcir dans ce qu'il a choisi, et puis celui qui a choisi pour le bien va aussi s'endurcir dans le bien. Enfin, donc on a un moment, tu sais, dans ces temps, comment dire, vous voyez bien l'hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, qui est, à laquelle adhèrent la plupart des, l'ensemble des exégètes. Quelle que soit leur orientation théologique, c'est que l'Apocalypse est écrit dans un temps de crise, à un moment où, d'une façon ou d'une autre, la communauté chrétienne, peut-être pas partout, mais on le verra plus précisément la prochaine fois, en Asie mineure, la communauté chrétienne subit la pression de l'Empire romain et qu'il y a un choix à faire. Donc on est dans une situation de résistance à un pouvoir totalitaire. Alors... il y a des temps comme ça dans l'histoire. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a eu à d'autres moments. Puis on pourrait se demander si on n'est pas proche de temps comme ça, où il faut choisir son camp. Puis il y a des temps qui sont plus paisibles, où on peut se permettre d'envisager toute la gamme des possibilités. Mais quand on est face à un ennemi puissant qui risque de vous faire disparaître, on ne peut pas dire je suis un petit peu avec les nazis, mais aussi j'aimerais bien soutenir la résistance, et puis je suis aussi d'accord avec ceux qui n'en pensent pas moins, etc. Enfin, je veux dire, y a des situations historiques où on doit choisir. Et l'Apocalypse construit une situation, une analyse de la situation, disant, dans la situation où vous êtes, il faut choisir, il n'y a pas moyen, c'est pour ça qu'on va rencontrer... une autre parole qui va sans doute vous choquer la semaine prochaine. J'aurais voulu que tu sois froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirais de ma bouche. Alors que nous savons, qui sommes bien installés, que le juste milieu ou un certain équilibre, etc., est plutôt la sagesse. Mais ça c'est des options pour des situations tranquilles. Alors que là, on est dans une situation de crise. Et dans une situation de crise, il n'y a pas moyen de choisir la tiédeur. C'est où on est dans un camp, où on est dans l'autre. Alors, donc on n'a pas fini de rencontrer des choses comme ça qui vont nous choquer, nous, tranquillement installés. Vous voyez ? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est... Oui. Quoi d'autre? Oui, alors vous avez le temps, le temps est proche, il y a une attente. Vous voyez qu'à côté de ce temps extrêmement proche, il y a un autre type de temps qui est évoqué. Hein, on a dit en introduction la dernière fois qu'il y avait plusieurs types de temps dans l'Apocalypse. Le temps cosmique de Dieu, le temps historique des hommes ou de la crise dans laquelle l'histoire est racontée, ou bien le temps du récit. À côté de ce temps proche, il vient bientôt. Qu'est-ce que vous avez comme autre évocation d'un autre type de temps?
C'est du temps ou c'est l'éternité? C'est l'alpha et l'oméga.
Voilà, il y a madame qui dit, mais c'est du temps ou c'est l'éternité? Je suis l'alpha et l'oméga. Là, on est typiquement dans le temps cosmique, on va dire de Dieu, enfin le temps qui dépasse le temps humain. Hein, quand à deux reprises, et dans le prologue et dans l'épilogue, celui qui parle dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient. Hein? » Donc là, on est dans... votre question signale que est-ce que c'est encore du temps puisque c'est l'éternité? Donc c'est un temps tellement englobant, et dans le schéma que je vous ai... donné sur la feuille jaune, hein, qui est au dos, on a effectivement cette pulsation dans l'épilogue et dans le prologue entre le temps englobant de l'éternité de Dieu et au centre la crise qui va se résoudre incessamment. Vient bientôt, oui, vient bientôt. Enfin, c'est pas le moment de dormir. C'est ce que je veux dire. Oui, allez-y.
Est-ce qu'on pourrait dire que la vie éternelle,
oui, alors je serais d'accord avec vous sur la deuxième partie de votre intervention. Je ne sais pas si on parle beaucoup de la vie éternelle dans la Bible, mais le christianisme, on a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que c'est typiquement cette qualité-là de temps où l'idée de avant-après n'a plus de sens. Et du coup, dès qu'on s'embarque à parler d'événements qui se passent dans cette vie éternelle de façon chronologique, dès qu'on est dans la chronologie et du récit où il y a un avant et un après, on risque très très fort d'éclater l'éternité, comme dit monsieur, ou de ne pas comprendre de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs pour ça, je fais une petite parenthèse, question très intéressante, on trouve ça aussi chez Jean, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean dit... Je suis venu pour que, Jean 10:10, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'au lieu d'employer une dimension chronologique, c'est une métaphore chronologique, on emploie une métaphore volumétrique, enfin, ou quantitative, ou qualitative, parce que la vie en abondance, ça peut être la vie maintenant, avec beaucoup de profondeur, de sens. Et puis vous avez le même évangile de Jean qui dit « Quiconque croit a la vie éternelle » et non pas « Quiconque croit aura la vie éternelle ». C'est-à-dire celui qui est dans une position existentielle de confiance est déjà dans la vie éternelle. Et donc vous voyez, ça fait effectivement exploser cette notion, et c'est pour ça que madame disait « Mais est-ce que c'est encore du temps quand on parle de l'éternité ?» Non, on emploie la métaphore temporelle. Mais l'éternité, c'est tout sauf un temps sans fin. C'est ce que je veux dire. C'est...
Il n'y a pas de temps.
C'est hors du temps. C'est... Donc on voit bien qu'on est dans une autre dimension.
Oui. L'éternité, la vie éternelle,
ouais.
On ne peut pas imaginer ce que c'est.
Ouais.
Mais quand on dit l'alpha et l'oméga,
ouais,
c'est une notion d'infini.
Ouais.
Même en mathématiques,
ouais,
la notion d'infini, on l'envoie.
Ouais, absolument. Et elle est très compliquée à s'imaginer.
Ça nous dit quelque chose comme une limite. Tandis que la vie éternelle, on ne sait pas comment on la définit.
Non. Non. C'est d'ailleurs pour ça que, à chaque fois que Jésus a parlé du royaume de Dieu, dont vous me concéderez que ça a peut-être un petit peu à voir avec ce qu'on appelle par ailleurs la vie éternelle, il emploie toujours des paraboles. Il dit c'est comme, et puis il va employer des paraboles horticoles, ou des paraboles économiques, ou des paraboles familiales, ou des paraboles de construction de maisons, ou choses comme ça. Parce que comme on ne peut pas dire ce que c'est, alors on va dire c'est comme. Et à chaque fois, c'est toujours comme quelque chose qui fait exploser nos catégories actuelles. Enfin, qui dépasse nos catégories actuelles. Mais qui ne les dépasse pas en termes de c'est plus long. Non, c'est une autre nature. Mais du coup, c'est à la fois une réponse qui peut être insatisfaisante parce que précisément, on ne sait pas le dire autrement que par des quantités d'approche. Je vous suggère de revenir à notre texte, mais voyez qu'il y a donc cette pulsation entre l'immédiateté de l'attente de ceux qui sont dans la crise et en même temps la tranquillité de celui qui est, qui était et qui vient, qui est l'alpha et l'oméga, complètement englobant.
Au verset 8, oui. 22, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Il nous ramène bien au moment où il écrit,
oui,
au moment où il perçoit.
Vous avez tout à fait raison. Au verset 8, on a encore un autre type de temps. C'est le temps historique de l'auteur. C'est le temps historique de l'auteur qui a été faire un détour en vision, qui a été faire un détour en vision dans quelque chose qu'il dépasse, mais qui en même temps lui parle du combat qu'ils sont en train de mener tout à fait concrètement ici et maintenant. Hein oui, d'autres choses? Oui.
Au verset 8, de
quel chapitre?
22,
du chapitre 22, oui.
Au verset 8 et au verset 16, il est question d'un ange.
Oui.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange.
Oui.
Et au verset 8,
16, oui. 16,
pardon.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Oui.
Moi, j'ai envoyé mon ange.
Oui.
Alors, je ne sais pas, Jésus commence. Il a besoin. Enfin, je ne comprends pas cette.
Oui.
L'envoyer qui ?
Alors, ça dépend de votre imaginaire sur les anges. Mais si on regarde dans tout l'Ancien Testament, les anges sont d'abord des messagers. Ce ne sont pas des entités qui ont une autonomie. D'ailleurs, c'est la poste, exactement. C'est même pas le facteur, c'est la poste. Ou alors c'est comme si le facteur, quand il vous a mis une lettre, il disparaît parce qu'il n'a aucune consistance en lui-même. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans beaucoup de textes bibliques où, comme il y a cette idée que l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir, alors quand Dieu va se révéler à Moïse ou à tel ou autre prophète, c'est d'abord au travers d'un ange et puis il commence à discuter avec l'ange. Et puis au fil du texte biblique, où est passé l'ange? Parce qu'ils peuvent maintenant être face à face et ils discutent ensemble. C'est-à-dire qu'il a servi d'entremetteur, d'intermédiaire, mais il n'a aucune... Alors contrairement à l'angéologie du judaïsme tardif, contrairement à l'angéologie chrétienne et en particulier médiévale, qui s'est occupée de... et musulmane aussi, l'angéologie musulmane est très très développée, qui s'est occupée d'en faire des entités... indépendante avec une hiérarchie, vous avez comme une armée, hein, vous avez avec chacun leur fonction, puis vous avez les chérubins, les séraphins, etc. C'est extrêmement compliqué. Hein, dès qu'on met le doigt dans les questions de l'angéologie, on est perdu. C'est tout le contraire de la dimension biblique, c'est ce qui permet de porter le message. Alors, le porteur du message, c'est intéressant parce que le Jean en question va devenir lui-même un ange, hein, puisqu'il lui est recommandé de porter le message et de l'écrire et de le transmettre. Donc je ne crois pas qu'il faille... alors il y a un ou deux endroits, on le verra dans l'Apocalypse, au chapitre 12 en particulier, où il y a l'archange Michaël qui intervient dans un grand combat. Ce qui ferait peut-être mentir ce que je viens de dire. Mais on verra comment on le traite quand on travaillera Apocalypse 12 et 13. Mais là, ici, en tout cas, c'est vous mettriez, j'ai envoyé mon message, simplement dans la fiction de la vision, vous avez quoi ? Vous avez un visionnaire qui regarde et qui voit des choses fantastiques, et à côté de lui, un petit peu pour lui tenir la main dans ce monde inconnu, vous avez un ange qui se charge de lui expliquer les choses.
Personne.
Ouais.
Un ange n'est pas une personne.
Non.
Est-ce qu'on aurait pu mettre à la place, j'ai envoyé mes disciples ou un disciple ?
Ben, chaque disciple peut devenir des anges. Là, dans la fiction de la vision, si vous voulez, on a presque besoin de ça à un moment. Vous avez ce personnage de Jean, on va le voir quand on va lire la fin du chapitre. Je regarde l'heure pour voir qu'on a le temps. La fin du chapitre 1, qui se trouve transposé. Dans un monde fantastique et effrayant dont il n'a pas les clés. Hein? Et alors, dans la fiction même de la vision, il est accompagné dans ce monde fantastique par quelqu'un qui va le guider pour l'aider, pour lui expliquer. D'ailleurs, il va s'adresser à lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Et alors, une des choses assez intéressantes, on l'a lu, quand est-ce qu'il veut se prosterner ? Vous vous souvenez ?
Oui.
Où est-ce que c'est ? Oui, exactement. Chapitre 22, verset 8. « Quand moi j'ai vu et entendu, je suis tombé au pied de l'ange pour me prosterner devant lui. » C'est-à-dire qu'au départ, il a presque votre réaction, enfin, je ne sais pas si c'est la vôtre, votre réaction, en considérant « j'ai affaire à une entité céleste, il faut que je l'adore, hein, ou que... » Et l'ange lui dit, non, fais surtout pas ça, moi je suis un comme toi, garde-toi de m'adorer.
Je suis le porteur de la parole.
Et, exactement, moi je suis ton compagnon de service. Ouais. En fait, toi et moi, on a le même boulot. Moi dans la vision, je suis chargé de t'expliquer et de te guider. Et puis toi, maintenant que tu as eu la vision, tu es chargé d'écrire et de transmettre. Hein? Mais surtout, ne me prends pas pour une entité indépendante qui aurait ses propres pensées, son propre message, sa propre puissance, sa propre autonomie. Je suis un serviteur comme toi. Oublie-moi. Oublie-moi, ce qui est important, c'est ce qu'on a vu ensemble et que je t'ai aidé à comprendre. Hein? Donc vraiment, je pense que là, on a précisément ce qui est mis en scène... Ce qui est mis en scène à l'intérieur même de la vision, c'est le fait de dire « Surtout, n'allez pas vénérer. » ce personnage de fiction qui a été mis là pour la nécessité de la vision. Oui, allez-y.
On pourrait penser, alors, comme les témoins de Jéhovah, ils disent que l'archange Michael, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de ça ?
Alors, je pense que quand on aura lu le chapitre 12, on n'aura plus de questions comme ça.
Ah bon ?
On verra bien que c'est complètement, complètement différent. Alors, peut-être, je voudrais, avant que nous lisions la suite de la vision, et sauf si vous avez d'autres choses à relever, j'aimerais souligner deux choses. D'une part, le premier mot du livre, qui est « révélation ». Littéralement, c'est « apocalypsis ». Hein. C'est-à-dire que c'est le mot « apocalypse ». On aurait pu dire « apocalypse de Jésus-Christ ». Mais si on avait dit « apocalypse de Jésus-Christ », personne n'aurait compris. Vous vous souvenez, et vous l'avez relu sur les papiers, ce que j'ai dit la première fois, c'est que « apocalypse », ça veut dire « tirer le rideau »,« dévoiler ». On avait dit c'est le geste que fait l'élu qui dévoile une stèle ou qui dévoile une statue.
Hein?
C'est une révélation, c'est l'ouverture du rideau après les trois coups au théâtre. C'est une révélation, révélation de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le seul endroit où cette racine, Apocalypsis, apparaît dans le livre de l'Apocalypse. C'est le seul endroit, c'est le premier mot, qui a d'ailleurs donné le titre de l'Apocalypse pour les langues latines. Parce que dans les langues anglo-saxonnes, c'est plus Revelation, c'est, ou Aufbarung en allemand, ou quelque chose comme ça. révélation. Alors que le mot révélation apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, vous avez en Amos 3, 7, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses desseins à ses serviteurs, les prophètes. Ça fait un lien avec le prologue, puisque Jean est convoqué et on lui dit « Je vais te révéler ce qui va arriver bientôt. » Alors évidemment, dans Amos, c'est en hébreu, mais quand la Septante traduit en grec, elle utilise le mot apocalyptéo. Et puis vous avez plusieurs révélations aussi, plusieurs apocalypses, si vous lisez le début, par exemple, de la lettre aux Galates. Paul va dire dans Galates 1, « Quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, ben c'est quand il a plu à Dieu d'apocalypter en moi son Fils. » C'est-à-dire que le chemin de Damas, c'est une apocalypse. Enfin, c'est le dévoilement, c'est le Dieu, c'est le Christ crucifié, ressuscité, qui se dévoile comme étant la victime de la persécution de Paul. Hein, Paul qui croit servir son Dieu en persécutant les chrétiens, découvre d'un seul coup qu'il est le persécuteur de son Dieu. Il se dévoile quelque chose pour lui. Il était derrière le rideau, on lui tire le rideau, il s'aperçoit que la réalité était exactement l'opposé de ce qu'il imaginait. Et il le décrit avec le verbe apocalyptéo, dévoilement, tiré de rideau. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous avez révélation de Jésus-Christ. Vous avez là, d'un point de vue grammatical, ce qu'on appelle un génitif. On n'a pas, en tout cas, les déclinaisons en français, mais derrière, en grec, il y a bien un génitif. Et alors, il a deux sens, ce génitif. C'est que c'est la révélation faite par Jésus-Christ, ou bien à propos de Jésus-Christ, ou bien... oui, c'est ça. Ou bien il en est l'objet, ou bien il en est le sujet. Et il n'y a aucun moyen grammatical de trancher. Et puis on verra que tout le livre de l'Apocalypse joue dans cette ambiguïté, que quelquefois c'est Jésus-Christ qui révèle, et quelquefois il est l'objet de la révélation. D'une certaine façon, la révélation de Jésus, c'est la révélation de Jésus-Christ par lui-même, on pourrait dire. Par lui-même sur lui-même, merci beaucoup. Par lui-même sur lui-même. C'est ça l'objet du livre. Je trouve ça c'est assez intéressant parce que ça donne une autre vision que révélation sur la fin des temps. Alors bien sûr, ça suit pour montrer ce qui doit arriver bientôt. Justement, ce n'est pas à la fin des temps, ou alors il faudrait voir quelle est la fin des temps. Si vous retournez votre feuille, vous avez au dos de la feuille que je vous ai distribuée, tout en bas, une miniature du 14e siècle, je crois, qui nous montre, tout en bas, là...
C'est l'Apocalypse,
ce danger. C'est l'Apocalypse. Ah non, oui, non, là, c'est, non, c'est pas une miniature, la tapisserie. La tapisserie d'Angers, chapitre 1, exactement, vous avez tout à fait raison. J'aurais dû le mettre, vous voyez.
Organiser un voyage pour tous à l'énergie.
Ah, ça serait bien, ça, oui.
Avec vous.
Ah, écoutez, on pourrait tout à fait. Et puis, ça permettrait aussi d'aller voir le chant du monde de l'URSA, qui s'en inspire aussi d'une autre façon, complètement, qui s'inspire aussi sur le mode tapisserie. Oui. Donc, vous avez, vous voyez, le Jean en question qui est à genoux ou bien qui est tombé, on ne sait pas bien hein, si c'est jeté à terre ou si c'est empiergé, qui était prêt à se mettre la tête contre le sol, et vous avez l'ange en question qui le relève et qui lui montre, alors avec un geste un petit peu bizarre, parce que il a les bras croisés, il le soulève d'une main et il monte de l'autre, et qui lui dit « C'est surtout pas moi l'objet de la révélation. L'objet de la révélation, c'est le Christ, et c'est pas n'importe quel Christ. Vous voyez que c'est un Christ en gloire, en majesté, qui est dans sa mandorle, entre l'alpha et l'oméga, c'est bien lui l'alpha et l'oméga.
Hein? Si je peux me permettre, ce geste croisé a une signification.
Dites-nous.
C'est contre le démon.
Ah.
On croise un bras sous l'autre pour vaincre l'emprise du démon. Ah, c'est... Même le geste qui prend le menton.
Oui. Ah ben c'est très intéressant parce que en fait ça annonce le programme de l'Apocalypse d'une certaine façon parce que va y avoir l'histoire d'un combat et d'une victoire sur le mal. Hein, on le verra quand on traitera chapitres 12 et 13. Merci beaucoup pour cette précision. D'accord. Très bien. Mais écoutez, merci. Alors ça, il faut vraiment qu'on organise un voyage avec vous. Et moi, je pourrais faire le côté biblique. Écoutez, réfléchissons-y. Peut-être une dernière chose, si vous revenez sur le côté où il y a le chrisme là, ben deux dernières choses. Est-ce que vous avez noté que dans l'épilogue et puis dans le prologue et puis dans l'épilogue, il y a trois béatitudes déjà. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit. Ça, c'est déjà pas mal parce que ça nous fait une béatitude pour nous qui lisons à haute voix ce livre et qui le recevons. C'est au verset 2, la fin du verset 2, enfin le verset 3 plutôt, excusez-moi, oui, vous avez raison. Chapitre 1, verset 3. Et puis, vous avez de nouveau une béatitude en 22.7, heureux celui qui garde. 22.7. Et de nouveau en 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, c'est peut-être juste une petite remarque, on le verra quand on fera telle ou telle des séances. Ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui lavent leur robe dans le sang. Hein. C'est un moyen un petit peu bizarre de laver sa robe, parce que le sang s'attache plutôt. Ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui font face aux martyrs. Ceux qui font face aux martyrs.
La purification, peut-être.
Pardon ?
La purification aussi.
Oui, mais alors ils se purifient au travers du sang du martyr, qui est à la fois le sang de l'agneau et puis leur sang à eux. C'est le livre de l'Apocalypse, c'est un des premiers où, vous voyez, plusieurs fois le mot témoin arrive. Ah, je reviendrai sur témoin, excusez-moi. Ça s'enchaîne. Je reste sur les béatitudes un moment. Le livre de l'Apocalypse est traversé, on n'aura pas le temps de le faire, mais je vais vous donner les références, de 7 béatitudes. Il y a une béatitude au chapitre 1, verset 3, que nous venons de lire. Une béatitude au chapitre 14, verset 13, vous irez la lire. Une béatitude au chapitre 16, verset 15. Et puis en 19.9. Et puis en 20.6, chapitre 20, verset 6. Et puis chapitre 22, verset 7, c'est une de celles que nous avons lues. Et puis, de nouveau, chapitre 22, verset 14. Vous irez les voir. C'est-à-dire que pour un livre qui, dans l'imaginaire collectif, est un livre de destruction, un livre d'horreur qui inspire des films comme Apocalypse à Mel Gibson, ou qui fait que les journalistes, dès qu'il y a une situation catastrophique, disent « c'est apocalyptique », donc on se dit, c'est terrifiant. Il est traversé par 7 béatitudes. Il y a 7 fois heureux. C'est-à-dire que le but d'un tel livre est d'annoncer heureux, soyez heureux, car malgré tout ce qui arrive, il y a des raisons de se réjouir et de se battre. Donc c'est vraiment un livre d'encouragement. Hein. Et vous voyez, pourquoi pas 6, pourquoi pas 8 ? Parce que 7, c'est vraiment c'est une plénitude de béatitude. Et là, c'est encore une découverte, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire les béatitudes, ben on pense tout de suite aux béatitudes de Jésus, dans le serment sur la montagne ou dans la plaine, dans l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Luc. Mais là, l'Apocalypse se présente comme une série, est ponctuée par une série de béatitudes du début à la fin. Alors même qu'il s'adresse à des personnes qui sont dans des difficultés. Oui ?
J'aurais dû le texte là. Oui. J'ai encore un verset que je ne comprends pas très bien. C'est le verset 17.
Oui.
L'esprit est un marié.
Oui.
C'est quoi ? C'est une métaphore mariée.
Oui.
Est-ce que c'est une métaphore de l'Église ?
Oui.
Est-ce que ça serait l'esprit et l'Église qui vient ?
Oui. Alors, chapitre 1, 22, verset 17. L'esprit et la mariée disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Et vous avez une annonce de la grâce, entre parenthèses, là.
Cette mariée, c'est quoi ?
C'est l'Église.
Au moins, c'est l'Église.
Je pense qu'on peut y voir l'Église. Je vous ferai passer une feuille avec quelques repères historiques pour l'Apocalypse dont on n'a pas encore parlé et des repères symboliques. Vous savez, la figure de l'épouse, ça peut être aussi la Jérusalem céleste qui se prépare comme une fiancée. Hein, parce que on a juste avant, il y a les noces de l'agneau. On lira ce chapitre 20-21. Il y a les noces de l'agneau et l'arrivée de la Jérusalem céleste. Et là, je dirais, c'est plutôt l'Esprit de Dieu et la Jérusalem céleste vous invitent. C'est un petit peu comme si on disait venez car tout est prêt. Hein. Donc, je dirais, c'est plus la Jérusalem céleste que l'Église, là. Parce que si on dit l'Église, on va tout de suite penser à une institution et je crois que ce n'est pas l'esprit de l'Apocalypse. C'est de dire, la Jérusalem céleste qui est l'épouse qui a rencontré son époux, l'agneau, sont maintenant prêtes, toutes portes ouvertes pour vous accueillir. C'est plutôt ce genre d'invitation universelle qui est offerte. Mais c'est une suggestion et quelquefois le fait de trancher pour une symbolique ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Hein. Alors juste une dernière chose quand même, sur le mot de témoin, qui arrive à plusieurs reprises, en tout cas à une, j'essaie de la retrouver, peut-être vous allez m'aider. Eh bien... Oui, voilà. Voilà. Au verset 16, chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour apporter ce témoignage au sujet des églises. J'avais l'impression que le mot témoin, on le retrouvera ailleurs dans l'Apocalypse, mais arrive là. Oui, je crois qu'il est au tout début. Verset 2. Vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est de nouveau un écho entre le prologue et l'épilogue. Hein. Au verset 16 du chapitre 22, il est question du témoignage au sujet des églises. Et au chapitre 1, verset 2, « Moi, son serviteur Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. »
Et la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.
Et la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.
Alors, c'est intéressant.
Vous avez raison, le témoin fidèle. Voilà. Alors là, c'est tout à fait intéressant parce que vous savez sans doute que témoin en grec, ça se dit martyr, martyrios, qui a donné notre mot martyr. Et alors, en grec, c'est vraiment le mot témoin, comme quand on dit un témoin assisté ou un témoin. Témoin d'un accident ou témoin en justice. C'est ça que ça veut dire en grec. Il se trouve que dans un contexte de crise et de persécution, le mot témoin en est venu à désigner le sort de celui qui témoignait. À savoir, comme s'il était inéluctable que quand on témoigne, on finit martyr. voyez le jeu de mots. C'est pour ça que le mot martyr en français se réfère à martyr, martyrios, martyreo, c'est témoigné. Hein, et alors, le mot témoin en français a gardé son simple sens de raconter ce qu'on a vu. Mais dans le contexte de l'Apocalypse, quand on dit mon témoin, ou Jésus-Christ, le témoin fidèle, il est à la fois... Pourquoi est-ce qu'il est fidèle? C'est parce qu'il est témoin jusqu'au martyr. Vous voyez? Donc, avec l'Apocalypse, on a affaire vraiment au premier, au premier passage où le mot martyr en grec, qui ne veut dire que raconter ce qu'on a vu, commence à se connoter de ce que va subir celui qui a raconté ce qu'on a vu. Et alors, revenons à, ces versets 2 du chapitre 1 et 5 du chapitre 1. Il l'a signifié en envoyant son ange à son serviteur ou esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. Donc Jean est lui-même un témoin martyr. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a vu à la fois ce dont témoignait Jésus-Christ et le martyr de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut d'ailleurs être, au verset 5, être qualifié de témoin fidèle, parce qu'il a témoigné jusqu'au martyr. Donc on est bien dans cette ambiance où le témoignage peut mener au martyr. C'est ce que je voulais vous signaler au propos de l'épilogue encore. Je vous invite à avancer. Il faudrait passer beaucoup plus de temps. Il faudrait aller voir toutes les béatitudes, etc. Ah, peut-être non, encore quand même une chose. Sur le chrisme, là, vous connaissez tous ce signe des églises chrétiennes à partir de la haute antiquité. On appelle ça un chrisme, c'est-à-dire qu'il y a la lettre... ce qui ressemble à un X, là, l'espèce de croix de Saint-André là, sur ce dessin-là, c'est le qui, le CH de Christ, et l'espèce de P qu'il traverse, c'est le Rho, la lettre grecque Rho, R, Rho majuscule, donc c'est les deux premières lettres de Christ, CH et R. Hein, si CHR, c'est une abréviation pour dire Christ. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ce signe-là un chrisme, qui est souvent flanqué des deux lettres alpha et oméga. C'est directement inspiré du prologue et de l'épilogue de l'Apocalypse, pour dire que c'est un des symboles chrétiens. De nouveau, pour vous dire que, pour bizarre que l'Apocalypse puisse nous paraître, c'est vraiment pas un livre qui est marginal, c'est un livre qui est au cœur même de la structuration de pensée chrétienne. Parce qu'on a affaire à un Dieu qui intervient dans l'histoire, qui intervient dans un combat contre le mal, qui annonce une ère nouvelle, et donc la fin d'une ancienne ère, qui prône une métanoïa, une conversion, un changement de comportement radical. Tout ça, c'est central dans le christianisme et tout ça, c'est central dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que le langage de l'Apocalypse nous paraît à nous étrange, codé, crypté, etc. Mais de fait, dans sa structure, on pourrait dire la foi chrétienne est une foi apocalyptique au bon sens du terme, évidemment pas à la façon des témoins de Jéhovah ou des sectes qui s'emparent du phénomène pour effrayer le monde. Non. Alors, je vous invite enfin à retourner la page pour que nous lisions la suite du chapitre 1, puisque maintenant qu'on a vu le prologue et l'épilogue, qui prennent en sandwich toute cette série de visions, eh bien nous allons entrer dans les visions.
Et
Est-ce que je peux
oui, allez-y.
La question, je suis un petit peu en retard, mais ah. C'est les Béatitudes, au chapitre 13, je n'ai pas noté le verset.
Alors, non, il n'y en a pas au chapitre 13.
14,
1, 3, 14, 13.
14, 13.
Ah, je vous les ai énumérés là, oui. Ah oui, voilà. Vous avez... Voilà, vous les avez énumérés en haut. Merci beaucoup de me le rappeler.
Alors moi, je reviens aux prostituées. Pourquoi elles rentreront les premières dans le royaume dans l'Évangile et là, on les laisse dehors?
Oui. Alors, ça, c'est une question herméneutique que vous nous posez là. À savoir de comment est-ce qu'on lit et donne du sens à des textes? Évidemment, si on prend tous les textes bibliques au même niveau, en considérant qu'ils sont dans la même situation de communication, ayant le même statut, alors on risque d'avoir quelques petits problèmes. Parce que, comme vous le savez, il y a dans la Bible des textes de sagesse, des textes prophétiques, des textes poétiques, des textes mythologiques, des textes narratifs, des paraboles, etc. Alors, dans les évangiles, on nous raconte une vie de Jésus, ou des vies de Jésus, ou plutôt pas des vies de Jésus, des attitudes de Jésus qui sont en elles-mêmes des annonces, des messages, des proclamations. On a ce message de l'accueil inconditionnel de tous, et en particulier de ceux qui sont les plus rejetés, les plus infériorisés par le regard du monde, de la société, des hommes. Ici, on est dans un discours apocalyptique comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était tranché. On est dans une situation d'urgence où il y a un combat. Et vous verrez que, ça on le verra quand nous travaillerons le chapitre 17 et 18, la prostitution dans l'Apocalypse n'a rien de sexuel. Parce que ça veut dire quand une ville est prostituée? C'est un petit peu embêtant. Essayez de vous imaginer une ville prostituée. Et essayez d'avoir une interprétation sexuelle de une ville qui est prostituée. Parce que c'est Babylone, la grande prostituée.
C'est-à-dire qu'ils font le mal.
Ouais. Et puis, voilà. Donc, on reprend là un vieux thème des prophètes. J'en dis pas plus, mais voyez ce que je veux dire. Donc, quand on dit dehors les prostituées là, ça ne veut peut-être pas dire dehors les dames qui font commerce de leur corps. Ça peut vouloir dire autre chose.
Je pensais que ça vient après les sorciers. Ouais. Ça pouvait être les serviteurs d'autres divinités, donc ceux qui sont fourvoyés, ouais. Les prostituées sacrées, les...
Ouais, alors ça,
les idolâtres.
Ce serait possible. On verra ça la prochaine fois quand on regardera la lettre aux églises. On verra que... et puis on le verra aussi quand on travaillera le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. On verra que ce qui est caractérisé comme prostitution, c'est l'amour de l'Empire et de son idéologie, non pas par amour justement, mais par intérêt. Vous savez, j'y reviendrai une fois ou l'autre... chez les prophètes de l'Ancien Testament, vous avez deux accusations qui sont portées contre des villes. C'est souvent Jérusalem, quelquefois Ninive. Elles sont soit qualifiées d'adultère ou de prostituées. Donc deux métaphores à connotation sexuelle. On pourrait dire que c'est la même chose, mais... C'est quoi la différence entre l'adultère et la prostitution? Il y a de l'argent dans un cas.
Ah, puis il y a la rupture d'une confiance.
Et puis il y a de la rupture de confiance, mais aussi de l'amour. C'est-à-dire que dans l'adultère, il y a aussi de l'amour, même il y a une rupture de conscience. Alors que dans la prostitution, il n'y a pas d'amour.
Il n'y a pas de tromperie.
Et il n'y a pas de tromperie non plus, c'est réglo. Vous voyez ? Et alors, en fait, les prophètes vont utiliser ces deux images, complètement déconnectées de leur dimension sexuelle, pour dire, si Israël est adultère, c'est qu'elle a renoncé à son amour de jeunesse qui était Yahvé, et qu'elle va vers des vers des idoles. Et puis, si elle est prostituée, ça veut dire qu'elle fait alliance avec des idéologies ou des institutions ou des États ou des royaumes qu'elle n'aime pas, mais avec qui elle s'allie par intérêt, parce qu'elle en attend un gain donnant.
Voilà. Alors, il y a quand même dans l'Ancien Testament une prostituée qui a un statut spécial.
Ouais, il y en a même deux. Il y a Tamar aussi qui joue aussi son jeu et qui se retrouvent toutes les deux dans la généalogie de Jésus en Matthieu. Ouais. Et vous voyez, donc quand on rencontrera prostituées dans l'Apocalypse, il faudra toujours se demander si on parle des dames qui vendent leur corps ou si on parle ou si c'est une métaphore qui sert à désigner une attitude politique ou une attitude idéologique vis-à-vis de l'Empire. En gros, ceux qui se prostituent vis-à-vis de l'Empire, c'est ceux qui savent bien que c'est pas bien, qui savent bien qu'il vaudrait mieux témoigner, mais qui n'ont pas le courage de témoigner et qui préfèrent s'unir avec l'Empire pour y gagner la tranquillité.
Parce qu'ils ont peur de la persécution.
Oui, exactement. Oui, voilà. Voilà. Alors vous dites collaborateur quelquefois, vous savez, il y a toute une échelle dans la collaboration. Hein, ouais. Mais, voilà. Voilà. Donc je vous invite, je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin, on a une bonne piste. Donc je vous invite à rentrer enfin dans les visions, et à aller lire, si je le retrouve moi-même, voilà, le chapitre 1. Les versets 9 à 20. Donc nous sommes juste après le prologue. Qui veut bien se lancer ? Merci.
Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis sept porte-lampes d'or, et au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. » Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux sept porte-lampes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept porte-lampes sont les sept églises.
Merci. Alors voilà, là on est rentré dans la vision. Hein. On a passé le seuil. On n'est plus dans le prologue ni dans l'épilogue, on a passé le seuil et on est entré de plein pied dans la vision. Mais il y a une petite transition quand même, le visionnaire va nous assurer une transition pour dire voilà qui parle et puis voilà, nous dire qui il est et puis après au revoir, bon voyage, je suis parti. Pardon ? Allez-y. Redites-moi ce que j'ai.
Ça ressemble à ce qui arrive au prophète Mahomet.
ça ressemble à ce qui arrive au prophète Mohammed. Alors moi, j'inverserais les choses. Moi, je dirais, ce qui arrive au prophète Mohammed ressemble à ce qui arrive à Jean de Patmos, parce que, évidemment l'idée de la révélation du Coran à Mohammed est reprise directement de l'imaginaire judéo-chrétien et de ses textes 7 siècles après. Mais effectivement, on a ça fait partie des patterns, des motifs qui sont directement repris dans la culture en islam. Oui, tout à fait. Oui. Comment il se présente? Parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de ce fameux Jean. On a rencontré déjà son nom au verset 4, une première fois. Mais au verset 4, on n'en apprenait pas grand-chose, hein, puisque c'était juste l'introduction. Moi, Jean, j'écris au cette église.
D'abord, au verset
1. Oui.
Parce que moi, Jean, votre prophète, prends part à la détresse, à la royauté et à la persévérance.
Merci. Oui, c'est intéressant. On va détailler. Le Jean qui parle, il se présente d'abord comme frère. Ça veut dire quoi? Pardon?
Je suis un des vôtres.
Je suis un des vôtres. Je vous écris, je suis un des vôtres. Oui, tout à fait. Vous faites partie de la même communauté que moi. Oui.
Et le lieu, c'est dans une ville grecque.
Alors, attendez, vous allez tout de suite trop rapidement. Ensuite, à part être votre frère.
À part la détresse, la persévérance. C'est-à-dire, je peux être persécuté en Jésus comme vous. Je suis
exactement. Avec vous. C'est-à-dire, n'allez pas croire que je ne suis pas persécuté comme vous.
Oui, j'ai les mains dans le cambouis.
Non seulement je suis votre frère, mais j'ai ma part de détresse, et du coup ma part de royauté, parce que dans l'Apocalypse, celui qui lave sa robe dans le sang du martyr est en même temps sacré roi. Hein, c'est-à-dire, c'est l'inversion qui est centrale dans le christianisme. C'est que le crucifié est ressuscité. Celui qui est rejeté est élevé, le premier et le dernier. Donc, en prenant part à la détresse, et il participe à la persévérance en Jésus. Donc, il participe de la même résistance que ceux à qui il écrit. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement pourquoi il a besoin de préciser ça. Et là, madame, vous signaliez que...
L'aspect géographique.
L'aspect géographique.
L'île de Patmos.
Il est dans l'île de Patmos. Alors l'île de Patmos, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, mais on entend régulièrement parler à la radio d'une autre île qui est quelques centaines de kilomètres au nord. C'est Lesbos. C'est-à-dire que là où les réfugiés syriens arrivent, c'est Lesbos. Ben Patmos, c'est il y a 1, 2, 3, 4 îles en dessous et c'est Patmos. C'est donc une petite île au large de la Turquie actuelle, au large de l'Asie mineure. Donc c'est un lieu à l'époque et maintenant où quand on veut fuir ou partir de l'Asie mineure, de la Turquie aujourd'hui, une des premières étapes vers la mer Égée et puis le reste de la Grèce, c'est d'aller là. Donc il est effectivement à distance, et on le comprend bien parce que vous voyez qu'on a une autre indication géographique. Il écrit à cette église qu'on va re-rencontrer, et vous aurez une carte la prochaine fois, qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, au verset 11. Elles sont toutes en Asie mineure. Si vous voyez la partie asiatique de la Turquie, c'est tout près de la côte, ou pas loin, à quelques dizaines de kilomètres, à l'ouest de la Turquie actuelle. Hein? Donc, il écrit en fait à un tout petit district. Là encore, on a un des effets de la pulsion que j'avais signalée dans l'Apocalypse, qui pulse entre un temps très très précis et un temps cosmique qui ressemble à l'éternité, et puis au niveau géographique, entre toute la terre habitée, le ciel, les étoiles, les profondeurs de la mer, et en même temps, un lieu qui fait, en gros, la taille d'un ou deux départements français, quoi.
Hein? Qu'est-ce qu'il y a les églises sont comparables à celles que Paul avait évangélisées.
Oui.
Colosse.
Alors. Alors, précisément, il y a Colosse à côté, mais il ne le cite pas. Il y aurait guère qu'Éphèse qui serait en commun. On verra qu'on a sans doute là affaire à un christianisme un peu particulier qui s'était installé là et qui ne fait pas partie du réseau paulinien. Mais on est quand même, 40-50 ans après. Hein.
Pourquoi il n'y a pas Corinthe aussi?
Oui, il n'y a pas Corinthe, mais tout simplement parce que on a affaire à un responsable d'église. Pourquoi est-ce qu'il est à Patmos? Regardez. Pourquoi est-ce qu'il est à Patmos? Est-ce qu'il est en villégiature? À cause de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Il est parti évangéliser Patmos.
Alors, il y a deux options. Dieu l'a envoyé évangéliser à Patmos. Ça serait une des possibilités. Hein. Après tout, dans le livre des Actes, c'est sans doute reconstruit, mais l'auteur nous dit que Paul est guidé pour aller en Macédoine, pour aller ici ou là. L'autre hypothèse, ce serait qu'il est à Patmos. Il y a deux façons de comprendre. Il a été envoyé à Patmos parce qu'il est banni à cause de sa prédication de la parole de Dieu en Asie mineure. Ou bien alors, il prêche chez en Asie mineure, et comme la situation est devenue trop tendue, il a pris un peu de champ à Patmos. Ce qui d'ailleurs pourrait justifier le fait qu'ils disent « Mes frères, je partage avec vous la détresse et le témoignage. » Parce que certains pourraient dire « il est parti à Londres, hein. il est parti se planquer. » ce qui est plus vraisemblable, c'est qu'effectivement, on a affaire à un responsable d'église qui sait à qui il parle, qui était peut-être responsable, ou en tout cas une personnalité importante pour ces sept églises d'Asie mineure, et qui, à cause de son témoignage, est amené à prendre du recul, mais écrit pour soutenir ceux qui sont restés là-bas. Ceux qui sont restés dans ces églises et qui continuent à faire face à d'éventuelles persécutions ou vexations ou dangers. On verra dans la lettre aux églises, quand nous retrouverons le 13 décembre, que ça a commencé à devenir chaud. Vous voyez c'est un peu comme si, je ne sais pas quoi, on arrive dans une période de persécution. Votre pasteur d'ici est trop exposé et il va se retirer, je ne sais pas où, au Chambon-sur-Lignon ou dans les... mais il n'oublie pas la paroisse restée ici et il écrit pour donner des encouragements en disant « Je suis avec vous dans le combat, j'ai juste dû... » Alors, on ne peut pas trancher, hein, mais je crois que ça, c'est plus probable, en tout cas, que le fait que... parce que si jamais la thématique, c'était « Je suis à Patmos à cause de la parole de Dieu qui m'y a envoyé pour aller y prêcher », alors on attend qu'il nous raconte son évangélisation de Patmos. Or, tout ce dont il parle, c'est pas de Patmos, c'est de ce qui se passe autour des églises qu'il a dû laisser. Hein? C'est ça le contexte de communication. Donc il leur écrit pour les soutenir dans le combat. Hein? Mais comme les lettres de résistants qui étaient à Londres, mais qui n'étaient pas à Londres pour se planquer, parce qu'éventuellement ils allaient revenir. Donc on apprend ça de ce Jean. Alors ce Jean, la tradition, on a fait Jean l'évangéliste. Il n'y a rien qui dit que soit Jean l'évangéliste. D'ailleurs, l'évangile de Jean lui-même n'est pas signé comme aucun des évangiles n'est signé. C'est des rapprochements de vocabulaire ou de thématiques qui ont fait penser qu'on avait affaire à la même littérature, qu'on appelle la littérature johannique. Mais il n'y a pas tout à fait la même théologie. Mais enfin, la tradition chrétienne, on a fait le même Jean que le disciple de Jésus. ce qui impose d'ailleurs à le rendre très très jeune quand il était... parce que quand on fait une construction comme ça ad hoc, après il faut inventer d'autres constructions ad hoc pour que ça colle. Donc il serait mort très 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 vieux, et quand il était disciple de Jésus, il était très 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 jeune. Et pour arriver à être disciple de Jésus dans les années 30 et écrire aux églises à la fin du 1er siècle, il faut avoir vécu très longtemps. Mais lui ne se revendique jamais comme apôtre, il ne revendique jamais avoir connu Jésus. En plus, si c'était l'auteur de l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé, qui a une intimité particulière avec Jésus, on n'en a aucune trace là. Donc, voilà, on est dans des façons de parler qui se retrouvent et qui peuvent avoir quelques rapprochements simplement. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur le cadre? Vous voyez, on rentre dans la vision. On a ces sept églises qui sont désignées comme destinataires. On va s'arrêter bientôt, hein? Oui. Non, j'entendais. Oui.
Le numéro 7, là, quand vous avez fait allusion aux 7 béatitudes.
Oui.
Et là, ça revient toujours, le 7 églises, les 7...
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Le chiffre 7, comme je vois qu'on a plus que 5-7 minutes, hein, je vous fais circuler une feuille, où d'un côté, vous allez voir, il y a des repères historiques pour l'Apocalypse, parce qu'on va rentrer dans l'histoire... historienne, des historiens la prochaine fois. Et au dos, vous avez quelques éléments sur la symbolique de l'Apocalypse, et Madame signalait le chiffre 7 qui revient souvent. Alors effectivement, une des choses qui est remarquable, c'est qu'entre le prologue et l'épilogue que nous avons lu, quel que soit le plan que font ceux qui veulent voir une logique argumentative à l'Apocalypse font, on constate qu'il y a toute une série de septénaires. Il y a sept sceaux, il y a sept coupes, il y a sept visions, il y a sept anges, il y a sept églises. Alors, les chiffres sont une des façons qu'a l'Apocalypse de travailler avec des symboles. Et c'est vrai que quelqu'un disait, pourquoi pas Corinthe, pourquoi pas Colosse qui est juste à côté? Pourquoi est-ce qu'il en reste à sept? Alors, une réponse simple serait juste pour de dire ben, c'est juste parce qu'il était en contact qu'avec Seth. Enfin, c'est quand même bizarre. Si on pense que Seth, ça représenterait quoi?
Il faudrait aussi peut-être signaler,
oui,
pour les Hébreux, comme l'a démontré Chouraki, que la Genèse est un poème qui est écrit à base du chiffre 7. Nous, les Français, on écrit avec des Alexandrins 12 pieds.
Oui.
Et toute la Genèse, c'est une...
Ouais.
Et l'Apocalypse est aussi repris avec ce type d'écriture.
Oui, alors, mais d'où vient ce 7? C'est les 7 jours de la création, c'est le chandelier à 7 branches, mais qui représente les 7 jours de la semaine. C'est quelque chose de complet. C'est quelque chose de complet qui représente une certaine plénitude. Du coup, on pourrait dire les 7 églises, c'est à la fois les 7 églises historiques qui sont mentionnées, mais potentiellement la totalité des églises et des communautés sur la terre. De nouveau, à travers ce chiffre de cette église, on a cette pulsion entre le local, à la fois il traite un problème extrêmement local, extrêmement circonstancié, placé dans l'histoire, et en même temps, ça concerne l'ensemble de la terre habitée et toute l'éternité. Vous voyez, on a dans ce simple chiffre 7, il ouvre à l'ensemble des communautés et en même temps, il en nomme des tout à fait particulières et il va montrer, on le verra le 13 décembre, qu'il les connaît particulièrement puisqu'il va leur faire une lettre particulière à chacune des 7. Hein? Merci de la question. Alors, vous verrez que je signale du côté où il y a la symbolique de l'Apocalypse, que ces chiffres peuvent être combinés et que 7 peut entrer en combinaison avec d'autres et puis qu'on a des significations qui sont données 77 fois 7 fois, c'est Jésus dans l'évangile de Matthieu. Juste une dernière chose peut-être. Vous voyez que chacune des églises est représentée par un chandelier, se voit attribuer un chandelier d'or, se voit attribuer un ange et une étoile. Et c'est intéressant parce que si on pense à la menorah, au chandelier à sept branches qu'on avait dans le temple de Jérusalem, détruit depuis longtemps à cette époque-là, et qui avait été emmené à Rome, hein, on le voit sur l'arche de Titus, ça fait partie du butin. C'est comme si maintenant on n'avait plus une menorah avec un chandelier à sept branches dans un seul lieu, le temple, mais comme si chacun en avait pris son chandelier. C'est-à-dire comme si la menorah avait été
dispersée.
Donc là, c'est de nouveau une idée d'une. Il s'adresse à la fois à des églises particulières et à l'église universelle.
Hein? Est-ce que ça a un symbole avec la dispersion des juifs qui est eu à travers le monde?
Alors, monsieur demande, est-ce que ça a un symbole avec la dispersion des juifs à travers le monde? Je dirais que la dispersion dans la Bible hébraïque, elle apparaît toujours comme quelque chose qui est dommageable, embêtante, même si on peut en faire son affaire et qu'on peut prospérer en Égypte, et comme Joseph ou comme Daniel, etc. Mais l'idée quand même, c'est qu'il faudrait revenir au centre. Le christianisme assume la dispersion comme sa condition d'être et il n'est en aucune façon nécessaire de revenir à un quelconque centre, si ce n'est le centre qu'est Jésus-Christ, mais qui n'est pas localisé géographiquement, pour le coup. Donc ça devient une figure d'universalisme. C'est comme ça que je répondrai à la question. Je pense qu'on va devoir s'arrêter puisqu'on arrive au bout de notre temps. Si jamais vous aviez des questions ou aimeriez revenir sur tel ou tel point de ce chapitre 1, on pourrait le faire en début de la séance prochaine, le 13 décembre. Hein? Mais je tiens à ce qu'on termine à l'heure pour ceux qui ont des obligations ensuite. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas forcément nécessaire. Merci beaucoup.